Nipsource.
Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de Nipsource, un podcast du réseau Nipcast. Nipsource est une émission qui traite d'open source software et hardware. Nos trois hashtags sont open source, crowdsourcing et collaboration. Vous pouvez retrouver nos anciens épisodes sur nipcast.com.
Nipsource.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Nipsource, l'épisode numéro 30. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un chroniqueur qui n'héberge pas son OnCloud dans sa cave parce qu'il boit des bières pendant qu'il télécharge et que ça irait trop vite, Cyril.
Bonsoir tout le monde.
Un chroniqueur qui a connu l'époque où on brûlait des CD, d'ailleurs on l'appelait Pierre à feu.
Oh, bonsoir à tous.
Et aujourd'hui on a un invité qui sait qu'Internet Explorer ne sert qu'à télécharger des distributions Linux avant de les installer, Frédéric Béziès.
Ouais, salut.
Alors aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, on a comme invité Frédéric, qui est en fait un chroniqueur de longue date dans la blogosphère francophone.
Oui, une petite dizaine d'années au compteur.
Alors Frédéric, est-ce que tu peux peut-être t'introduire et nous parler un petit peu de tes sujets de prédilection ?
Une introduction rapide, j'ai 42 ans, je suis passionné d'informatique libre. Mis à part ça, comme je l'ai dit, passionné d'informatique libre, passionné de tout ce qui est un peu geek depuis que je suis tout petit. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Que je suis le casse-bonbon de la blogosphère francophone, libriste bien sûr.
Le poil à gratter.
Ou le casse-bonbon aussi, parce qu'il y a beaucoup de nombre de personnes qui voudraient bien me voir brûler en enfer.
Enfin, l'enfer. Alors, je sais qu'un de tes sujets de prédiction, justement, c'est les distributions Linux. Je crois que tu en testes énormément.
Oh, en gros, ça va être une par semaine en moyenne, sur l'année.
Et moi, je me posais la question, justement, depuis. Ça fait combien de temps que tu testes de distributions ?
J'ai dû commencer, si je n'ai pas de bêtises, enfin, je vérifie sur mon blog, aux alentours de 2008-2009, dans ces eaux-là.
D'accord. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'essais de distribution à ton compteur.
Bien sûr, il y a aussi des distributions dont je parle régulièrement, comme la Fedora, la Debian, toutes les distromères, comme je les appelle, et aussi, bien sûr, les Zetroniciels.
Ah, ça, j'adore, parce que tu arrives à trouver des espèces de distributions complètement exotiques. Déjà, dans le titre, sais que ça va être. ça ne revient à rien d'installer.
Source, DistroWatch.
Oui.
Que les Linuxiens aiment à détester, n'est-ce pas?
Oui, en effet, c'est un site particulier, oui.
Mais au moins, ça permet d'avoir, bien sûr, les statistiques, moi j'appelle ça les statistiques de curiosité, soit on voit sur le côté le top 100, soit le côté droit, c'est la curiosité, c'est pas des statistiques d'installation. Mais c'est vrai que la liste d'attente, par moment, on tombe sur des bijoux.
Oui.
C'est comme ça que j'ai pu connaître la micro-ROS, de triste mémoire.
Qu'est-ce que la micro-ROS ?
C'était une Ubuntu avec Cinnamon, mais inutilisable. Et j'avais dit qu'elle ne durait pas 6 mois. Elle est morte au bout de 3 mois.
Donc ça, c'est la pire que tu as pu rencontrer ou tu as un top 3
le flop 3.
Ouais, le flop 3.
Alors, bien sûr, la micro ROS. La pire OS, pour ceux qui connaissent.
Et ils ont bien choisi le nom.
C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Non, mais pire, le fruit, la poire.
Ah oui, j'en ai souvenir. Ouais, pire, P-E-A-R.
ERS. Ouais. Il y a une troisième. Bon, voyons, avec qui je vais me fâcher cette fois-ci.
Alors, du coup, la poire OS, là, pourquoi est-ce que c'était si.
C'était tout simplement un clone plus ou moins raté de macOS.
D'accord,
oui.
Lourdingue. Une troisième dans les pires. Oh, voyons, qu'est-ce que je pourrais dire ? Là, c'est-à-dire qu'il y a tellement que je tourne un peu à vide.
T'étais préféré, du coup
Non, top 3. Enfin, je vais mettre en top 5. Je vais pas être méchant. Bien sûr, il y a Arc. Arch Linux, bien sûr. La Manjaro.
Dérivé d'Arch, ouais.
Enfin, la fille d'Arch, en quelque sorte. Moi, j'appelle la Ubuntu d'Arch, parce que ça reprend le même principe à l'origine. La Ubuntu Mate, ça va vous surprendre, mais celle-là, j'aime bien. La quatrième, je dirais la Fedora. Et la cinquième, c'est ma chouchoute, la Slackware.
Slackware.
Eh oui. C'est simplement parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust.
Mais est-ce que tu la testes encore régulièrement?
C'est-à-dire que je fais mes muses de temps en temps, oui, régulièrement. Là, j'attends la sortie de la 14.2 pour refaire mes muses avec.
Et est-ce que tu as déjà testé Deepin Linux, par exemple ?
La Deepin, oui, j'en ai parlé, et je compte la récupérer bientôt pour faire la 15.2. Même chose. C'est-à-dire que Deepin a une chance, c'est comme pour la Solus, c'est que l'environnement est portable.
Oui, oui.
Contrairement à des horreurs comme Unity.
Oui.
Va essayer de porter Unity. Si vous voulez, les gars, je vous enverrai le lien du fil sur le forum d'Arch Linux. Il y en a pour 50 pages.
Oui, bah oui, mais.
Non, c'est pas prévu pour être portable. Et bon, une distribution que je mettrai dans le sixième, c'est la Solus Project, avec Budgie, qui est très bien comme environnement.
Et celle que tu utilises au jour le jour, c'est toujours Arch Linux, tu installes les autres dans des machines virtuelles.
Mais dans des machines virtuelles, sauf qu'en ce moment, je souffre de mille morts avec VirtualBox, parce qu'il a tendance à faire des Guru Meditation comme un Windows Millennium sous amphétamine.
Ah ben c'est l'occasion d'apprendre à utiliser Libvirt et KVM.
Mais sinon, j'utilise toujours en parallèle QEMU et KVM. Donc,
ouais, ouais.
Mais le problème, dès qu'on utilise Nouveau 4.6, VirtualBox part en cacahuète. Un Windows Millennium sous amphétamine.
Le 1. Je suis encore en 4.5, moi.
Mais je suis un peu fou furieux, j'utilise testing.
Oui, mais le noyau 4.6, justement, est sorti en version 4.6.1, et la version 4.6.1, elle, elle a un bug qui fait rebooter, un problème au niveau du reboot de machine, donc apparemment elle reboot de manière assez capricieuse, donc il faudra attendre la 4.6.2.
Ah merde, j'ai installé la 4.6.1 récemment.
Pardon ?
Je vais juste installer le 4.6.1, et j'ai de l'uptime, donc ça va.
Ben voilà, si je disparais, on sait pourquoi.
Monsieur Lucas, j'avais fait une mise à jour rapide du 4.6, donc 4.6.1, peut-être que c'est ce bug qu'ils auront backporté,
le correctif. Non, c'est le 4.6.1 qui a le bug. Mais
j'ai vu récemment fait une version 4.6.1-2. Peut-être qu'ils ont backporté le correctif.
Peut-être, oui.
Non, mais sinon, ben là, je fais mes muses avec QEMU. Et j'ai testé, cet après-midi, j'ai fait une vidéo d'une heure avec QEMU pour installer la Void Linux, une rolling qui utilise from scratch avec Runit, le système d'init Runit.
Oui.
J'ai mis ma thé avec, une heure.
Et je me demandais justement, est-ce que tu utilises une interface graphique en front de ton QEMU, de ton KVM ?
Non, la bonne vieille ligne de commande. QEMU, ouais. KVM. C'est-à-dire que je me suis fait raccourci KVM 64 avec toutes les options que j'utilise à chaque fois. Donc j'ai mieux qu'à rajouter le disque dur, enfin l'image du disque dur, l'image du CD-ROM et vogue la galère.
D'accord, oui. Tu as réécrit Virt Install, quoi.
Non, je fais juste un petit script. Enfin, c'est un alias. KVM 64, c'est QEMU System X8664, moins KFR, moins M, etc. Tu vois ce que je veux dire,
ouais.
Ça me permet de me simplifier la tâche que de retaper à chaque fois la ligne de commande en entier. Alors, je dis souvent, un bon passionné d'informatique est une feignasse.
Est-ce que tu as déjà testé pas de distribution, donc un petit Linux from scratch, par exemple ?
LFS, ouais. J'ai fait ça il y a longtemps, c'était à l'époque de la version 4X de LFS.
Ouais, ouais.
Ça prend beaucoup de temps, mais c'est une distribution, ça me fait penser, une distribution que j'aime bien, qui est basée sur LFS, c'est Nutix.
Nutix.
N-U-T-Y-X.
Et qu'est-ce qu'elle apporte en plus de la...
Elle est basée avec une LFS et avec des paquets précompilés. Ça permet comme ça d'avoir le côté LFS très léger, très modulaire, avec des paquets précompilés pour éviter de perdre 8 jours à installer le monde logiciel.
Et qu'est-ce qu'elles utilisent comme gestionnaire de paquets ?
Un gestionnaire de paquets maison qui s'appelle Cartz.
D'accord. Ça peut être intéressant. Et au niveau des distributions un peu plus compilées, Gentoo, etc.
J'ai déjà testé par curiosité, mais c'est trop chronophage.
D'accord.
C'est pour ça que, bon, quand j'ai quitté Ubuntu en 2009, je suis passé soir parce que j'ai cherché une distribution toujours à jour, déjà. C'était soit Gentoo, mais j'avais pas envie de perdre mon temps à compiler, donc je suis allé sur Arch.
D'accord, il me semble que sur justement, c'est peut-être l'occasion de parler un peu plus profondément de Arch. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique de Arch ?
Alors rapidement, Arch est né en 2002, donc c'est quand même une distribution qu'on peut dire mère assez récente. À l'origine, je crois que c'est Jude Vinette, le créateur de Arch, qui est parti de la Crux pour créer sa propre distribution. Il s'en est inspiré pour avoir une distribution avec le principe KISS. Keep it simple, et le S, c'est comme
stupid.
Voilà, ou simple, stupid. Simple, bref. Il a décidé de rester au plus proche de l'upstream. C'est-à-dire que dès que tu as un maté, il est aussi proche d'un modulo des bugs de, des patchs de compilation que l'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcouche, de modification ou autre. C'est ça que j'ai aimé, surtout par rapport à ça. Et c'est une distribution, quand même, bon, c'est vrai qu'elle est un peu spéciale, je me la pète. Pour certains plans, au début, ça fait un peu ça. C'est pour ça que je propose tous les mois un tutoriel d'installation sur mon blog.
Oui, oui, qui est une, que tu mets à jour de manière incrémentielle.
Ouais, c'est-à-dire que c'est surtout pour les petites correctifs, compagnie. Mais surtout, moi, ce qui m'avait plu dans Arc, c'était le côté logiciel aussi proche que possible de l'amont. Il n'y a pas de bugs étranges qui sont rajoutés par des patchs tiers.
Ça implique du coup d'avoir une rolling release, sinon c'est pas possible. Et justement, ça, c'est également beaucoup de travail au niveau de la distribution de permettre aux utilisateurs de quand même mettre à jour de manière plus ou moins transparente. Est-ce que justement dans l'histoire de Arch, il y a déjà eu des moments où tu as dû réinstaller ta distribution, où tu as dû réinstaller la moitié de ton système d'un coup, des choses ainsi?
Mais deux ou trois fois, parce que simplement. Deux, trois fois parce que j'ai changé de disque dur déjà.
Oui.
La seule fois que j'ai réinstallé suite à un bug logiciel, c'était à l'époque d'une migration de la Glibc qui était mal passée. Sinon, je n'ai jamais eu besoin de réinstaller. La seule fois que j'ai réinstallé, c'est quand j'ai changé de disque dur parce que l'autre rendait l'âme.
Et alors,
quand j'ai acheté mes portables, automatiquement.
Alors, Arch Linux, c'est une distribution qui supporte plusieurs architectures. Tu l'utilises uniquement sur du
x86 ? X86,
ou du ARM, enfin je veux dire du X86-64. Tu l'utilises aussi sur du Raspberry, etc.
Non, je n'ai pas de Raspberry malheureusement, donc je ne peux pas l'utiliser sur du Raspberry, mais sinon j'ai un IPC en 32 bits avec Arch, et mes deux PC, mon portable et mon FX, ils sont en 64.
Voilà. D'accord.
Mais si j'ai un jour une Raspberry, je me mettrai une Arch Linux ARM.
Alors, comment ça fonctionne, le gestionnaire de paquets sur Arch? Parce que je pense que c'est une de ses particularités, avec une partie communautaire, une partie distribution.
Alors, Arch, c'est-à-dire qu'il y a trois dépôts principaux, en dehors des dépôts testing qui sont complémentaires. Tu as Core, qui contient tous les outils de cœur, c'est-à-dire le compilateur, les outils de base. Tu as Extra, qui contient tous les environnements de bureau, la plupart, que ce soit KDE, Plasma, enfin KDE, Gnome, XFCE. Ta communauté qui contient des logiciels communautaires, il y a aussi Maté qui est dedans, je ne sais pas pourquoi.
Oui.
C'est ce qu'on appelle le dépôt AUR, pour Arch Linux User Repository. En gros, c'est un gros fourre-tout, on trouve le pire comme le meilleur, c'est une espèce de PPA géant.
D'accord, et tout le monde peut uploader ses paquets dessus alors.
Mais par contre, maintenant, ils ont mis une limite depuis qu'on est passé à AUR4, c'est qu'il faut signer ses paquets. C'est-à-dire que si on met un paquet sur AUR, il faut avoir une clé SSH pour pouvoir justement y accéder.
D'accord.
Et après ça, t'as le gestionnaire de paquets Pacman.
Oui.
Et t'as des surcouches à Pacman pour accéder à AUR, par exemple, plus facilement.
D'accord. Mais AUR peut être utilisé avec le gestionnaire de paquets de base.
Oui, mais c'est plus complexe. Parce que si tu n'utilises pas Yaourt ou PacAUR ou autre, t'es obligé de passer par la commande de Git. Ce qui est moins user-friendly. Mais sinon, j'utilise Yaourt, qui est développé par Arch Linux FR et que depuis des années, quoi, je suis tellement habitué que maintenant, tous les matins, yaourt-syua, et puis boum, log la galère pour les mises à jour. Hein. Soyons fous.
Sinon, oui, tu disais que tu as un IPC, et donc sur l'IPC, tu as installé un Arch ou...
Arch Linux, oui.
Ouais, parce que sur ton site, j'avais vu que tu avais testé la Manjaro Netbook Edition.
Ouais.
D'ailleurs, j'en avais parlé lors du dernier Nip Source. Et oui, toi, tu l'as essayé, mais tu l'as pas retenu, quoi. T'as préféré continuer avec un.
Parce que, étant donné que je suis entièrement en Arch, je me suis dit pourquoi pas continuer. Et puis, je voulais surtout voir l'adaptabilité de la distribution. Parce que mon IPC n'a qu'un giga de mémoire vive.
Oui, oui, tout à fait, comme le mien.
Très bien. Et même en 32 bits, là, je suis. J'ai passé une période où j'étais obligé de passer au noyau LTS parce que le noyau stable avait un problème au niveau du circuit Intel. Mais sinon, c'est une stabilité monstrueuse, quoi. Je n'ai jamais de problème avec. Hein.
Est-ce que tu as déjà contribué à des paquets ou des choses ainsi au niveau de Arch Linux?
C'est-à-dire que j'ai mon espace AUR et je maintiens une trentaine de paquets.
D'accord.
Un qui me tient à cœur, c'est le paquet de mon imprimante. Déjà, j'ai maintenu pendant quelques temps, c'était iScan qui a après passé dans Community. Donc, je maintiens QEmuGit, que j'utilise pour la virtualisation. Je maintiens quelques paquets de police. Monsieur Schemp, tu recherches mon nom, enfin mon pseudo Fred Béziers sur AUR, et tu te verras, il y a une trentaine ou une quarantaine de paquets que je te maintiens. Et je maintiens aussi Freedom. Là, c'est le vieux joueur qui parle. Ben, c'est aussi vieux jeu, donc c'est pour ça.
Est-ce qu'il y a des critères sur AUR concernant les packages qu'on peut émettre? Est-ce qu'on doit mettre uniquement des choses qui sont open source, par exemple?
C'est plutôt conseillé, mais bon, bien sûr, il faut éviter de mettre des trucs pirates, ça, évidemment. Il y a des logiciels fermés, mais la plupart du temps, c'est l'open source et du libre. Donc, mais bon, par contre, moi, ce que je critique sur AUR, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pondent un paquet sur AUR et puis qui se tirent en le laissant mourir sur place. C'est ça qui est ennuyeux.
Oui, oui. Est-ce que c'est facile de reprendre le paquet d'un autre ou d'en publier un qui a le même nom?
Mais c'est-à-dire que souvent, quand ils sont orphelins, il faut juste cliquer sur pour adopter un paquet, on l'adopte et après on le maintient. C'est un simple clic de souris. Il faut juste que le paquet soit rendu orphelin. C'est un simple paquet, simple recette package build qu'on adapte, qu'on met à jour et puis il vogue la galère, quoi. C'est très bien expliqué.
Et quels sont les critères? C'est fini. Et quels sont les critères qui indiquent qu'il va être orphelin? C'est une non mise à jour pendant un certain temps.
C'est aussi le mainteneur qui le laisse tomber, tout simplement.
D'accord. Parce ou que... le mainteneur qui laisse tomber ou un temps à.
Tout simplement, on peut demander sur la AUR la mailing list correspondante à ce que le paquet soit rendu orphelin si l'auteur n'est pas maintenu pendant 6 mois. Par exemple, on peut demander et les. Et ce qu'on appelle les trusted users qui gèrent, enfin, qui sont en gros ceux qui gèrent Community et AUR. Mm-hmm. Bon, ben lui, il n'a pas maintenu son paquet, on le fait gicler et le paquet est rendu orphelin. Voilà.
D'accord.
Mais c'est rarissime. Bon, le problème, c'est surtout les noyaux qui sont des noyaux spécifiques à des machines et qui sont abandonnés au bout de 2 ou 3 versions et on se retrouve avec des noyaux, une liste de noyaux longue comme une liste sans fin, quoi. Mm-hmm. Mais c'est, ouais. Oui.
Non, vas-y.
Non, mais vas-y, je laisse parler.
Parce que je vois que tu maintiens beaucoup de packages qui sont marqués comme Git.
Ah oui, ça c'est parce que j'aime bien utiliser les versions de développement, par exemple, Ezital Git. Ça me permet comme ça de parfois de rapporter des bugs en upstream.
Mais ça veut dire que quand tu l'installes, tu as vraiment la dernière révision Git ou tu as celle qui est marquée en version du package?
Quand tu compiles automatiquement Git, tu récupères la dernière version disponible.
Et la version qui est indiquée au niveau de AUR, alors, c'est laquelle?
C'est le moment où j'ai mis en ligne.
Mais d'accord.
Temps, il y a une ou deux révisions de différence parce que j'aime bien quand même mettre mes paquets Git régulièrement à jour comme ça peut, pour les personnes qui les utilisent, ils se disent ah bon, il n'y a pas de modifications et c'est pour ça. Voilà, ça me permet comme ça de donner un petit coup de fouet au logiciel.
Tiens, par exemple, je vois que tu maintiens LiveRea.
Oui.
Je suis plutôt étonné qu'il soit dans le AUR, qu'il soit pas plutôt dans le Community ou plus haut dans la distribution.
Mais moi, j'étais étonné aussi pour la version Git, mais je crois que c'est dans Community à vérifier. Moi,
d'accord, oui.
Non. Parce que les versions Git, c'est développement. Moi, j'aime bien les versions développement, mais ça, c'est mon côté un peu fou furieux, grand malade. Mon côté un peu vieux linuxien, parce que j'ai connu la grande époque de la Slackware en 96, donc tu vois ce que je veux dire. Les paquets de développement ne font pas peur.
Et alors, justement, sur Arch Linux, quand tu installes un package, une librairie, etc., tu as directement, du coup, le package en lui-même, est-ce que les autres distributions appellent les paquets de développement? Donc les headers, etc. pour cross-compiler.
Ça dépend comment les paquets sont faits. Mais la plupart du temps, quand tu récupères les paquets, tu as parfois aussi des headers de compilation et compagnie. Ça dépend comment les paquets sont faits. Mais pour les librairies, souvent, il y a même les paquets officiels. Si tu prends par exemple la librairie Dimping, tu as tous les headers pour recompiler par la suite. Voilà.
Est-ce que tu crois que... le fait que tu maintiennes tous ces paquets, etc., est-ce que tu crois que ça te bloque sur Arch Linux? Est-ce que tu crois que c'est ça qui te fait y rester ou il y a vraiment une passion là autour et tu as beaucoup d'autres raisons d'y rester?
Mais simplement, j'ai trouvé une distribution qui me plaît, donc tant qu'elle fonctionne, voilà. Mais si un jour je dois quitter Arch, je quitterai Arch, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Ça fait bientôt 8 ans que j'utilise Arch, enfin ça fera 8 ans à la fin de l'année. Parce que j'ai commencé à utiliser Arch vers mi-2008, brutalement à partir de 2009. Donc, ça me fera un peu mal au cœur de quitter Arch, mais je sais que j'ai trouvé la distribution qui me convient. Parce que par exemple, une personne qui utilise depuis 5 ans Slackware ou Fedora ou autre, c'est parce qu'elle aime la distribution. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de feeling, c'est une histoire de ressenti, de je suis bien avec.
Mais pourtant, tu testes plein d'autres distributions quand même.
tu cherches quand même. Non, mais c'est ma curiosité naturelle. Je suis un grand curieux. Je peux être coupable sur ce plan-là. C'est-à-dire que je suis un très grand curieux et j'aime découvrir d'autres distributions.
Mais est-ce que c'est pas justement un point négatif justement de t'impliquer à long terme sur Arch et de ne donner aux autres distributions qu'une heure ou deux pour te faire une impression?
Pas une heure ou deux, parce que quand même, si tu prends un test, c'est vrai que si tu prends un Ubuntu base, tu les as toutes vues. Ça, idem pour Debian based. C'est vrai que par moment, on a l'impression que je passe pas beaucoup de temps dessus. Mais en vérité, j'en profite du podcast pour le dire, ce qu'on voit les 10 ou 15 minutes ou parfois la demi-heure d'enregistrement, c'est vraiment le haut de l'iceberg. Parce que je fais au minimum deux installations. Une première, d'accord, où je fais toutes les captures d'écran, où je prends toutes les notes et compagnie. Et une deuxième, où je refais toutes les captures d'écran si nécessaire. Et si je, c'est la deuxième installation que je monte vraiment à l'écran.
D'accord.
Donc au minimum, c'est 5-6 heures de boulot pour une distribution. Bien sûr, si c'est la énième Debian base ou la énième Ubuntu based, je sais très bien sur quoi je vais tomber. Donc je ne vais pas non plus passer X heures dessus. Mais c'est vrai que sur une distribution un peu plus exotique, comme une Void, comme une Nutix ou compagnie, j'ai tendance à prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai mes habitudes, je sais remarquer ce qui cloche ou pas. Mais surtout, moi, je me dis, je me mets dans la peau de l'utilisateur de base, de l'utilisateur lambda, Monsieur Michu.
Ah, le fameux.
Qu'est-ce qui me ferait piquer? Est-ce que je serais capable de rester sur une distribution qui est à moitié traduite? Est-ce que je serais capable d'accepter une distribution qui propose à moitié Logitech ou trop de logiciels? J'essaie quand même de ne pas rester complètement technophile. C'est ça qui me permet d'essayer de maintenir un équilibre, ni trop technique, ni pas assez. C'est pas évident, mais c'est un peu ma marque de fabrique, que certaines personnes n'aiment pas.
Bah justement, comment est-ce que tu peux te mettre dans la peau de Monsieur Michu et tester Nutix?
Non, c'est vrai que pour Nutix,
si on prend exemple.
Les 15 milliards ou 15 trillions de Ubuntu based, je m'excuse, c'est pour Monsieur Michu.
Oui, oui. Justement, est-ce que tu as déjà été agréablement surpris par une Ubuntu based?
Maté. D'accord. La Ubuntu based maté. Celle-là, c'était, pour appuyer dans mes archives, la première fois que je l'ai vue, c'était un coup de cœur. Parce que je me suis dit, enfin, une Ubuntu based qui a quelque chose, qui a permis à Maté, bon, j'avoue que Maté au début, je ne croyais pas, mais ça a permis de donner à Maté un petit coup de fouet et lui dire, c'est bon, ça peut fonctionner. C'était aussi peut-être un retour à l'Ubuntu que j'aimais au début, parce que j'étais utilisateur d'Ubuntu pendant quelques années. Personne n'est parfait.
Moi aussi.
C'est passé dans Ubuntu.
Mais si tu prends 10 Linuxiens actuels, tu en as au moins 3 ou 4 qui ont commencé sur Ubuntu.
Et qu'ils y sont encore, moi,
parfois.
Par exemple.
Non, mais c'est vrai. Mais si tu prends 10 Linuxiens, tu as facilement 3 ou 4 qui ont commencé sur Ubuntu. Ouais.
Et d'ailleurs, Frédéric, on s'était rencontrés dans une vie précédente sur le planète Ubuntu francophone, je pense.
Ouais.
Et c'était vraiment il y a très longtemps.
Oh putain, oui, c'est vrai, parce que moi j'ai quitté Ubuntu en 2008-2009, parce que je commençais à sentir que Ubuntu ne prenait pas une direction qui m'intéressait. Et puis l'arrivée d'Unity, là, a vraiment été le coup de grâce.
Et tu as essayé Voyager Linux?
Pas encore, là, elle est sur ma liste d'attente.
Ah, bah voilà, tu verras, ça te fera changer d'avis.
Non, mais c'est vrai que Unity a quand même fait beaucoup de mal, parce que je pense qu'Unity, il y a beaucoup de personnes qui ont vu arriver Unity qui se sont dit au revoir, ailleurs si on y est. C'était même si je vais être un peu méchant, mais aussi c'est le principe de Mir. Quand est-ce que Mir va sortir?
Ouais.
Non, mais ça fait 3 ans qu'ils nous promettent Mir et Unity 8, Canonical, mais au bout d'un moment, il faut peut-être le sortir. Hein.
C'est un mirage.
Ah, jolie celle-là, j'avais pas pensé. Non, mais c'est vrai que c'est comme aussi la guerre des Inits. Alors, ça me prend la tronche. Système D contre le reste du monde, ou le reste du monde contre système D. Alors là, non, mais j'en ai tellement soupé que maintenant je dis, battez-vous, tapez-vous sur la gueule, moi j'ai aidé des personnes à passer sous Linux si on en a envie. Point barre.
Ben justement, toi tu es du coup utilisateur de système D depuis plusieurs années déjà.
2-3 ans, oui. Mais je peux très bien aussi utiliser des distros avec OpenRC ou avec Runit ou compagnie, moi peu importe. Comme disait un certain dirigeant chinois, peu importe que le chat soit blanc ou noir, tant qu'il attrape des souris, c'est un bon chat. Deng Xiaoping. C'était la minute culturelle.
Ouais.
C'est vrai, non, mais ce qui m'énerve, c'est qu'on dit, ouais, système D, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais merde, on lui demande de lancer le système, de gérer les services. C'est tout. Bon, c'est vrai qu'il a tendance à être un peu tentaculaire. Mais qu'est-ce que fait Runit? Qu'est-ce que fait OpenRC? Il lance le service et gère le système. Linit, c'est tout. C'est comme pour Devon, quand j'ai testé la bêta, j'ai dit tout ça pour ça. C'est vrai que si tu prends Wheezy ou tu prends Jesse, tu l'installes, tu peux encore installer avec 6V init, Mais c'est tout. Ouais. Encore des vannes. S'ils veulent le faire, tant mieux pour eux. Mais moi, je ne sais pas si elle va... ça durera hyper longtemps. Hein.
Non, des vannes, c'est peine perdue. La communauté qui est derrière, la communauté qui est derrière est une communauté insultante qui ne mérite pas vraiment notre attention.
C'est que des vannes, c'était vraiment pour moi dès la naissance le rejet du système D de manière viscérale.
Oui, oui, c'est ça. Et, c'est la théorie du complot. C'est,
Non, mais moi, autant si autant j'aime bien Gentoo, même s'il faut recompiler, c'est ça qui est chiant. Mais autant des vannes, comme qui dirait, ça m'en touche l'une sans me faire bouger l'autre. Hein.
Ouais, ouais.
C'est terrible de voir quand même de. Parce que on critique surtout aussi parce que je dis qu'il y en a marre des forks abusifs, je m'inscris bien abusifs, qui gaspillent des ressources, mais bien sûr, ça c'est pissé dans un violoncelle, personne ne veut entendre ça. À quoi ça sert d'avoir 15 Ubuntu bases pour la même fonctionnalité alors qu'une seule suffirait? Si les personnes veulent perdre leur temps et gaspiller des ressources.
Oui, c'est vrai que mais c'est aussi un problème que quand on a justement toutes les distributions que tu testes, etc., c'est difficile de savoir lesquelles seront encore dans 6 mois ou lesquelles recevront les mises à jour de sécurité à temps, etc. Quoi.
Mais moi, je pars d'un principe, éviter les distributions mono-développeurs, déjà. Mais si on ne s'appelle pas Patrick Volkerding, ce n'est pas la peine d'y penser. Bien sûr, Patrick Volkerding étant le papa de la Slackware.
Oui, oui.
Non, mais sinon, mais les distributions mono-développeurs, mieux vaut les éviter. Distribution style faite bisque-bisque rage, mais vous les évitez aussi. Moi, je dirais, comme je dis souvent, restez avec les distros mères ou restez avec leurs filles grand maximum. En gros, Debian, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, Manjaro, Slackware. Voilà. En gros, c'est distribution, quoi. Mais bien sûr, Gentoo. Mais il faut vraiment rester avec les distros mères.
Justement, est-ce que tu testes beaucoup de dérivés d'Arch Linux?
Mais il n'y en a pas tant que ça. Si tu sors Manjaro, qu'est-ce qui reste?
Je me posais la question justement, je disais oui, Manjaro, effectivement, et après.
Mais il y a aussi la Arch Linux Cathedral, comme je l'appelle, la KOS, parce qu'elle utilise les Package Build et Pacman. Il y a aussi la KOS, la Chakra Linux, qui est anciennement une Arch Linux, mais ils ont vraiment coupé les ponts. Mais sinon, Antergos, c'est juste un installateur. Arch Anywhere, c'est un installateur.
Chakra?
La Chakra, oui, c'est une ancienne Arch Linux.
D'accord.
Mais la scission date de 2009 ou 2010. C'était l'Arch Linux avec KDE pur. Et puis après ça, ils ont fait une scission aux alentours de 2009-2010 pour prendre leur propre dépôt. Maintenant, ils sont incompatibles. Voilà.
D'accord.
J'ai l'impression d'être un peu le monsieur, enfin le Jean, le Alain Decaux des distributions Linux, là. C'est vrai, j'ai tellement testé que.
C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de voir la quantité que t'as pu tester.
Mais si tu prends les statistiques. Mais c'est-à-dire que si tu regardes les statistiques de DistroWatch à la fin de chaque gazette, tu vois quand même qu'en 15 ans, ils ont, enfin en 13 ans, parce que ça fait 13 ans qu'ils font des gazettes, 15 ans que le site existe, ils en sont à plus de 800 distributions indexées et un peu moins de 280 vivantes.
Oui, oui, mais quelle est leur définition de vivante?
Encore développée.
D'accord. Est-ce que tu as déjà testé NixOS?
Oui, mais j'ai pas vraiment accroché parce que c'est le Nix PKG, c'est vraiment un peu spécial. C'est peut-être très bien, mais j'ai pas accroché.
D'accord.
Donc là, mais la distribution, autant on accroche du premier coup, d'autres, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça?
Oui, oui, en effet.
Mais dans le genre distribution, on peut se poser des questions. Il y a bien sûr la NewSense, ouais. C'est la Wheezy. Dommage parce que la NewSense 4, j'en ai parlé récemment, ce qui m'a valu d'être fouetté en place publique par certains hybristes extrémistes. Non, parce que c'est une Debian Wheezy, donc déjà qui est en LTS, libérée, donc c'est une logique qui avait minimum 4 ans d'âge. D'accord. Donc tu te retrouves avec un LibreOffice 3.5.
Au moins c'est LibreOffice.
Oui, c'est déjà LibreOffice, oui. Non, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de retard pour la version 4, basée sur Wheezy. La version 5 qui est basée sur Jesse, il faudrait bien la sortir en moins d'un an. Sinon, ils vont encore se retrouver avec des logiciels vieux comme Erod. C'est-à-dire que les distributions libres, c'est un peu à double tranchant. C'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'on dit la roue de l'enfer est pavée de bonnes intentions. C'est le problème. Si tu prends la Parabola, qui est une Arch Linux libérée, elle est très utilisable, mais le problème, si on installe le dépôt YoPrivacy, là, on ne peut plus rien faire ou presque. Dommage.
Ah oui, en effet. J'ai testé récemment le noyau Linux libre sur mon PC. Ça marche bien, mais j'ai pas le Wi-Fi.
Ah, parce que t'as un firmware propriétaire nécessaire.
Voilà, ouais.
Ça, c'est con. Mais Bon, mais sur, je vais pas me jouer extrémiste libriste, mais les seuls logiciels non libres que j'ai sur ma machine, mis à part le noyau, c'est de VirtualBox.
Hein, tu prends la version précompilée.
Oui, parce que comme c'est précompilé, j'ai un VirtualBox précompilé disponible, donc pourquoi je m'ennuierais à le compiler ?
Ah oui, parce que VirtualBox, il y a une version open source. Hein.
Oui, mais c'est la version des dépôts. Mais comme elle n'est pas 100% libre, selon les canons de la FSF.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai comme non libre. C'est tout. J'ai très, très peu de logiciels non libres. J'avais une époque où, bien sûr, quand Flash était encore utilisable, j'utilisais Flash. Faute de mieux, n'est-ce pas ? Depuis qu'il y a HTML5, merci. Non, mais c'est vrai que j'utilise presque plus aucun logiciel non libre, mis à part le noyau Linux, mais ça, c'est tout. Et peut-être le pilote de mon imprimante qui n'est pas libre. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, je suis vraiment presque sec, Linux, de toute façon.
Est-ce que Arch Linux permet de masquer les packages en fonction des licences ?
Ça, je ne sais pas, tu vois, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. D'accord. Là, tu poses mon col.
Ça ne me dit rien non plus, moi.
Mais là.
Tu peux filtrer, non ?
D'accord.
C'est pas là, en tout cas.
Mais, c'est-à-dire que moi, les licences, pour moi, j'aimerais bien me pas. Moi, c'est vrai, bon, je préfère tourner sur le ciel libre. Mais par moment, les licences, c'est vraiment de la maltraitance de mouche, par moment. Hein. Je ne vais pas dire de gros mots, mais vous savez, vous connaissez l'expression. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'aime pas me prendre la tête. Si, comme je dis souvent, je suis un gros pragmatique, même si pour certaines personnes considèrent que c'est un gros mot. Mais moi, tant que j'ai un logiciel qui fonctionne, s'il est libre, tant mieux. S'il n'est pas libre, tant pis. Tant qu'il fait la tâche que je lui dis qu'on veut faire, tant mieux. Voilà. Un logiciel libre. Mais c'est vrai que j'utilise de moins en moins de logiciels libres. Tant mieux. Comme ça, au moins, un non libre, je veux dire. Tant mieux.
Après, est-ce que tu as déjà testé une distribution comme Tails, par exemple?
Tails, oui, j'ai déjà testé. C'est sympa. Mais par contre, comme il détectait la machine virtuelle et poussait une gueulante.
D'accord. Ouais, évidemment, oui.
Mais sinon, c'est très intéressant comme distribution, oui. Mais ça, c'est une distribution à mettre sur une clé USB. Et après, bien sûr, bon, l'anonymat à 100% n'est pas garanti parce qu'il ne faut pas arriver, on ne veut pas avoir 100% d'anonymat. Mais c'est vrai que c'est bien pour limiter la casse. Discret.
Discrétion.
Voilà.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi il râle sur la machine virtuelle.
Alors ça, ben, je ne peux pas te dire. Mais je n'ai pas trouvé un concept de ralentissement énorme, quoi. Mais c'est peut-être aussi...
Ah d'accord, oui, à ce niveau-là.
Peut-être aussi par rapport à l'utilisation des fonctionnalités, de la virtualisation en dur que tu as dans ton processeur ou pas.
D'accord, oui, c'est pas un problème au niveau de la confidentialité, quoi.
Non, c'est pas ça, c'est simplement ça dépend si ton processeur est fonctionnel avec la virtualisation en dur ou pas.
Oui, d'accord.
Intel VT et AMD, je sais plus quoi. AMDV, je crois, on s'en va.
Alors, est-ce que... Tu as des projets pour les prochaines années? Est-ce que tu veux te lancer plus dans l'un ou l'autre domaine, ou est-ce que tu vas continuer à tester un petit peu au hasard les nouvelles distributions comme elles viennent?
Bon, ben juste là, j'ai pas de plan prévu, tu vois. Pas de plan prévu, donc ça sera au feeling. J'ai toujours fonctionné au feeling par rapport à ça. Après, c'est vrai que certaines distributions, quand je verrai une distribution complètement pourrie, j'ai pas parlé de certaines distributions, mais qui étaient tellement pourries. C'était même pas la peine que j'en parle, sinon je me serais énervé, j'aurais fait mon méchant Fred puissance 50. Non, c'est mauvais, ça me fout des ulcères. Et non, je ne donnerai pas de nom. Voilà, moi c'est fait. Non, mais je sais
que
pas.
Tu parles aussi souvent que tu t'es lancé dans l'auto.
Oui, c'est vrai. Là,
je trouve que ça se rapproche un peu de la. Alors peut-être pas forcément de l'esprit open source, mais du do it yourself.
Oui, c'est-à-dire que je me suis lancé dans l'auto-édition, oui, parce que bon, je suis un gratte-papier à mes heures perdues. Et là, j'ai sorti une trilogie de science-fiction de 900 pages, qui m'a pris un an et demi à écrire. Arcaïa. Donc, si vous cherchez Arcaïa sur Atramenta ou sur Amazon, vous le trouverez. Bon, faut pas me faire trop de reproches. Le premier tome est un peu coquillard. Je vais laisser quelques coquilles. Et sinon, j'ai publié récemment un roman de 190 pages entièrement gratuit. Parce que je m'étais, pour faire un peu la nique à certains auteurs auto-édités.
Qu'est-ce qu'on appelle l'auto-édition? C'est-à-dire que t'as pas de maison d'édition, c'est toi qui te...
C'est-à-dire que, c'est ce que fait Amazon, ce que fait Atramenta, ce que fait Kobo et compagnie. Tu proposes ton texte, enfin, tu travailles ton texte, tu mets en page et compagnie, et eux, ils te proposent de l'éditer. De manière payante ou gratuite, ça dépend de la plateforme que tu utilises.
En version numérique unique?
Numérique et papier. Je me suis fait un tirage privé pour mon deuxième bouquin, parce qu'il est entièrement gratuit, donc j'ai uniquement disponible en numérique. Et mon premier bouquin est disponible en numérique et en papier. Enfin, ma première série de bouquins. Aussi, j'avais été édité par Larousse pour un bouquin qu'il m'avait commandé.
T'as mis quoi comme licence alors, du coup?
Bah, j'ai des écrits libres aussi, qui sont sous licence CC BY-SA. Mais par contre, mes écrits, entre guillemets, payants, sont tout droit réservés. Ce qui est logique, malheureusement. Je suis récemment arrivé sur Amazon pour mon dernier bouquin, qui s'appelle « Un mois d'octobre sans fin ». C'est une uchronie, un peu comme ce que fait, si vous connaissez Philippe K. Dick et le maître du Haut-Château, c'est le même principe.
D'accord, oui, oui.
En uchronie, en gros, pour expliquer, c'est on part d'un événement historique et on prend une réalité alternative. Il y a aussi un roman de, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, qui s'appelle Roma Eterna, qui part du principe, je sais plus qui c'est qui a fait ce, je crois que c'est, je sais plus comment s'appelle l'écrivain, si vous le retrouverez facilement. Il est parti du principe, et si l'Empire romain ne s'était pas écroulé, qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je suis parti de la Première Guerre mondiale, et j'ai, pour mon bouquin, je me suis dit, et si la Première Guerre mondiale ne s'était pas arrêtée en 1918, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà. J'ai mis un an à l'écrire.
Tu sais s'il existe des plateformes là qui favorisent, enfin des plateformes open source, j'entends, qui favoriseraient un peu l'auto-édition autre que Amazon.
In Libro Veritas.
Excuse-moi, j'ai pas entendu.
In Libro Veritas.
D'accord.
Mais juste un petit mot technique, Cyril, on t'entend vraiment pas fort du tout.
D'accord. Moi,
je ne sais pas s'il y a que moi, mais.
Ah non, moi je l'entends très bien.
D'accord, ben il y a que moi.
Il faut juste se déboucher les oreilles avec une perceuse. Hein.
À mon avis, oui.
C'est le retour de vacances, Julien. T'es...
Non. Mais sinon, il y a aussi Atramenta qui propose la publication sous licence libre. Et Atramenta était fondé par un ancien de In Libro Veritas, ILV. Voilà.
Ok. Mm-hmm.
Eh ben voilà, je propose qu'après cette petite entrevue, on continue sur le reste de l'épisode. Évidemment, Frédéric, tu restes avec nous.
Pas de problème.
Pour commenter les actualités diverses et variées de ces deux dernières semaines.
Vas-y, on y va. On est parti.
Bah, Cyril va commencer par nous parler de bière.
Bah oui, parce qu'on a eu un commentaire, enfin on en a eu plusieurs d'ailleurs, on vous remercie d'ailleurs de vos commentaires, mais je suis resté sur un, il s'appelle, si je retombe dessus, Harlock, qui découvrait notre podcast, qui nous reproche de pas parler à cette bière. Donc ce qui m'a fait plutôt rire, parce que 5 minutes plus tard dans mon flux RSS, je vois un titre, la première bière open source. Donc nous allons parler de la première bière open source alsacienne.
Ouf, mais Cyril, je vais t'arrêter tout de suite, il y en a des dizaines des bières open source.
Eh ben moi je ne savais pas que ça existait, tu vois. Le cola open source, bon ben on en apprend des choses.
Sinon, ben... Il y a quelqu'un qui a un gros écho là.
Oui.
Allô, allô.
Ouais.
J'entends toujours...
Pas que ça vienne de chez
moi non plus.
On va... Essayez comme ça, est-ce qu'on entend toujours l'écho?
Oui, ça a l'air d'aller.
Par contre, est-ce que tu sais te démuter, Fred? Ah voilà. Donc Fred, l'écho venait de chez toi, on dirait. Alors donc, je disais, moi, la première fois que j'ai bu de la bière open source, c'était en 2012 au Rumelele.
D'accord.
C'était à Genève et il y avait déjà de la bière open source, mais c'était pas la première fois que quelqu'un l'avait fait.
Il y a encore de l'écho.
Bon, non, ouais, il y a encore un peu d'écho.
Il y a encore l'écho, oui.
Ah oui.
Si, ça vient de Fred, je pense. Allô, allô?
Ouais.
Oui, l'écho est toujours là et je pense qu'il y a chez toi, Fred. T'as changé quelque chose? On va essayer.
Bon, bah, du coup, moi, je connaissais pas. Je vous en ai trouvé.
Il y a encore de l'écho.
Ouais, attends, Cyril. Allô?
Oui.
Ah, on est reparti là.
C'est bon?
Voilà, Cyril.
Donc, je disais. Sans écho, que moi je ne savais pas que ça existait, et donc il y en a une nouvelle qui côté de Strasbourg, libérer la recette, vous pouvez directement dans les notes de l'émission. Il y a une autre, vu qu'apparemment c'est assez connu, il y a une autre brasserie écossaise qui s'appelle Brew Dog, qui ont fait la même chose, mais ils ont vraiment un catalogue très très impressionnant de bières, parce qu'ils ont plus de 250 recettes libérées. Laissez le petit catalogue, donc si vous avez le matériel pour brasser, et ben vous pourrez faire ça tranquillement en ayant les recettes open source. Allez, voilà. Et donc du coup, Julien, elles étaient bonnes ces bières open source?
Oui, elles étaient très bonnes, j'ai conservé la bouteille un certain temps. Très bon, rien à redire.
Rien à redire. T'en boirais sans modération?
J'en boirais sans modération, oui.
Je te reconnais bien là.
Ouais, je bois. Moi, je tourne à l'eau gazeuse. Mais...
Oui, la Badoit, j'ai vu ça. Bah, chacun son vice.
Ouais. Alors, Cyril, tu vas nous parler de SystemD Manager parce que tu tombes tellement en amour de SystemD que tu vas même utiliser une interface graphique pour le gérer.
Pas forcément. Je pense que je vais quand même plutôt rester sur la ligne de commande. J'ai pas encore, vu que j'ai encore des moufles, pas tout intégré. Je m'y mets petit à petit. Mais j'ai trouvé que c'était une alternative à peu près sympa pour pouvoir s'y mettre de manière graphique. Donc SystemD Manager, c'est une interface en GTK 3 qui va vous permettre de gérer graphiquement, pouvoir voir les sites et l'air des SystemD Analyse pour analyser votre temps de démarrage. Après, c'est... Oui, puis de toute façon, là, le système des managers, clairement, il est beaucoup moins puissant, là, à l'heure actuelle, que la ligne de commande. Et voilà, ça peut être un outil sympa si on veut commencer un petit peu à regarder comment ça fonctionne et qu'on n'est pas trop habitué à la ligne de commande. Ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de voir comment ça fonctionne. Voilà, c'est sur GitHub.
Alors, SystemCTL a une option pour directement se connecter à un serveur distant et gérer le serveur distant à partir de la machine sur laquelle on est. Est-ce que il y a la même chose avec SystemD Manager?
Je pense pas. Non. C'est clairement spécifique. Pour le moment, c'est très très basique en termes d'usage. Je te dis, à part voir les services actifs et pouvoir les gérer, tu pourras pas faire grand chose de plus pour le moment. Donc après, à voir si le projet continue à développer en termes de fonction. Pour le moment, c'est pas le cas. pas pour ça, pas encore.
Attention que SystemD n'a pas une majorité de développeurs de Red Hat au niveau des committeurs. Il y a une dizaine de personnes, je pense, dont des gens de Arch, des gens de Suzy, des gens de Canonical. Alors Cyril, est-ce que tu as vu la nouveauté au niveau de OnCloud, c'est-à-dire qu'il a été forqué pour devenir maintenant NetCloud?
Pas du tout.
Donc NextCloud, pardon. Dans les derniers mois, il y a quelques gros bonnets de la société OnCloud qui ont quitté le navire. Et aujourd'hui, l'aboutissement a été révélé, c'est-à-dire qu'ils lancent un clone de OnCloud qui sortira en version 9 au mois de juillet, ils espèrent, donc qui sera à la base un remplacement drop-in de OnCloud, donc on pourra facilement migrer de l'un à l'autre, et qui après ça va diverger de plus en plus de OnCloud, et notamment de sa politique vis-à-vis de l'open source et de sa manière de faire des affaires, quoi. Donc on dirait qu'en interne, dans la société qui faisait OnCloud, il commençait à avoir des discussions sur l'avenir, etc., sur les business decisions, c'est que le fondateur lui-même est parti, donc il a démissionné. Et maintenant, on connaît un petit peu plus ses plans, il lance NextCloud, qui sera donc une alternative à OnCloud, une alternative, en tout cas une concurrence frontale.
Ouais, là, c'est clairement c'est clairement de l'agression, le thème de couleur utile, le logo qui...
C'est agressif, mais d'un autre côté, s'il y a tous les développeurs principaux et la communauté qui suivent, c'est peut-être que le problème venait de, non pas de, du fork, mais du projet original.
Alors, j'entends aussi qu'il y avait une invasion.
On verra si ça devient comme LibreOffice et OpenOffice, par exemple. Parce qu'au départ, LibreOffice était en effet aussi, ça semblait un peu rude, mais au fil du temps, on se rend bien compte que tout le monde a suivi sur LibreOffice. Donc voilà, Cyril, peut-être qu'un jour tu migreras vers Nextcloud.
Alors pour ça, c'est sûr.
Alors il y a quand même une différence avec OnCloud, c'est que le C n'est pas en majuscule ici.
Oui.
Donc ils ont quand même changé la typographie un petit peu.
C'est pas tout à fait.
Mais bon, ils sont quand même partis avec les développeurs et les idées, donc on verra ce que ça va donner. Et justement, on dirait que chez OnCloud, on a senti un peu le vent tourner parce qu'il y a quelques jours, je pense il y a 3 jours, ils avaient annoncé une fondation OnCloud pour un petit peu gérer toute la partie open source et communauté. Sauf que là, du coup, ils ont l'air d'être un peu tard sur la balle étant donné qu'il y a un fork tout nouveau, on verra. On verra surtout, moi surtout, impressionné de voir quelle sera la différence entre les deux au niveau fonctionnel et au niveau technique.
Ouais,
ça va être assez intéressant à voir.
Ça. Alors, moi, j'ai pas trop suivi l'histoire de la fondation, la création de la fondation là, par OnCloud. J'ai vu les news passer, mais qu'est-ce que ça peut vraiment changer en termes de, enfin, sur le projet en tant que tel?
En fait, ce qu'ils espèrent, c'est mettre l'accent plus sur la communauté et sur l'open source, et vraiment avoir une cloud qui va gérer les entreprises, etc., et la fondation qui va organiser des événements vers la communauté, organiser la rétribution, enfin, l'accueil des contributeurs, les lignes de conduite de la communauté, etc. Donc, leur objectif, c'est vraiment de dissocier le professionnel de l'open source, de donner, entre guillemets, de l'importance à l'open source. Sauf que maintenant, on se rend compte que ils étaient sûrement au courant de la création de Nextcloud et qu'ils ont essayé de sauver la barque tant qu'il est encore temps, quoi. Mais là, du coup, ça semble du coup un peu tard. Donc on verra, ça sera intéressant. Je sais pas s'il y a une distribution Linux qui est spécialisée pour Nextcloud, etc. Comme on a notre spécialiste avec nous. Parce que par exemple, pour les NAS, il y a Open Media Vault, par exemple, qui est une distribution spécialisée pour tout ce qui est NAS, partage de fichiers, etc. Donc on pourrait imaginer qu'il y en a une qui va apparaître juste pour la gestion de cloud, par exemple. Surtout vu le récent déboire qu'il y a eu avec OnCloud et Debian.
Je vois pas de quoi tu parles. tu as des distributions du genre Unohost qui te permettent d'automatiser l'installation facile, mais vraiment des distributions axées sur le cloud directement, clé en main, j'en connais pas non plus, moi ça me dit rien. Comme tu peux avoir pour des serveurs de mail par exemple, ça c'est vrai que c'est une solution clé en main, mais c'est vrai que pour le cloud j'en connais pas.
Bah Cyril, voilà un défi pour toi du coup.
Tu veux m'occuper
et après ça t'envoies directement le mail à Fred pour le petit test.
C'est ça. Alors, Cloud Ready, de mémoire, c'est un fork de Chrome OS, pure Google. Non, Cloud Ready, c'est Neverware et c'est Chromebook Experience. Effectivement, c'est...
Alors, en parlant de vitesse, Cyril, toi, tu vas nous parler d'un jeu de voiture de course open source.
C'est pas un jeu. C'est des ingénieurs qui ont libéré, en fait, la construction, les plans et le software. Mini-voiture. Ça ressemble en gros à une grosse voiture téléguidée qui est complètement autonome, un peu comme peuvent faire les constructeurs automobiles pour les vraies voitures. Ce qui m'a plutôt impressionné en fait, c'est que elle a un algorithme qui va lui permettre de calculer en permanence la meilleure trajectoire en fonction de sa vitesse et pour que le véhicule reste en sécurité. C'est important de le dire parce qu'en fait ils font leur test sur une espèce de piste en terre et ça n'empêche absolument pas la voiture de déraper comme une malade, mais elle suit vraiment le parcours sans faire de sortie de piste, et c'est vraiment je trouvais ça vraiment vraiment intéressant. Alors je vais vous laisser un peu quelques chiffres. Donc en gros c'est une échelle 1/5 par rapport à une voiture normale, ça fait une vingtaine de kilos, ça va jusqu'à 100 km/h. Alors c'est une bonne petite bébête. Il y a des capteurs de mouvement, des GPS, deux caméras, il y a quand même un i7 dedans, 16 Go de RAM, du SSD et une carte graphique, je suppose pour la puissance, tout ça pour la puissance. Donc ils estiment à peu près environ une centaine d'heures pour construire et configurer la voiture. Donc ils ont un petit site sur lequel ils déposent tout ça, avec de petites vidéos qui montrent un peu ce qu'ils ont su à faire. C'est compatible aussi ROS, alors je savais pas ce que c'était, c'est le Robot Operating System. C'est en gros plein de software informatique open source qui sont axés sur tout ce qui est robotique. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est même plus du bricolage là, c'est vraiment une belle preuve of concept. Très, très beau jouet.
En train de regarder le site, ouais, ça a l'air.
Est-ce que tu as déjà fait la tienne?
Moi j'aimerais bien. Faut trouver le matos, mais parce que je trouve financement, peut-être un peu bricoleur quand même, parce que monter une voiture c'est pas non plus le plus simple, faut quand même que ça soit bien roulant, bien réglé. Je pense qu'au niveau software c'est peut-être un peu plus facile, enfin je trouverais ça moi personnellement.
Ouais.
Voilà, ce que je trouvais plutôt rigolo c'était effectivement que la voiture dans des courbes arrive à faire du dérapage contrôlé de manière autonome, quoi. Donc bon, il n'y a pas encore de pilote dessus, et je pense que si un jour ils en font une plus grosse et que t'es assis, tu peux avoir un petit peu peur quand tu commences à déraper et que tu te dis non, tout va bien se passer. Je trouvais ça plutôt sympa comme concept. Le petit lien est dans les notes de l'émission.
Alors en parlant d'être bricoleur, j'imagine que Pierre va nous parler de boulanger.
Oui. Non, boulanger, j'ai découvert ça juste avant le début du podcast. C'est l'enseigne d'électroménager Boulanger qui a mis en ligne un site qui s'appelle Happy 3D, qui permet le partage de modèles 3D. Pour pouvoir, ces modèles, on peut les imprimer. Alors, c'est essentiel, c'est beaucoup de pièces de rechange d'électroménager de leur marque de leur marque de distribution, c'est-à-dire Essentiel B et Listo. Alors dedans, on va trouver, alors je suis en train de prendre des exemples, il y a une trappe à piles, des pieds électroménagers, des entretoises, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? On va trouver tout un tas de petits éléments d'électroménagers, de pièces de rechange qu'on peut réimprimer. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que si par exemple un embout d'aspirateur, on va trouver la référence et en fonction de la référence de cette pièce, on va pouvoir télécharger la pièce et l'imprimer. Voilà, voilà. Là, si Seb fait ça, c'est très bien. Là, c'est Boulanger qui a mis ça en place pour ses pièces et il voudrait. Alors, ils font un peu l'appel du pied pour les autres marques pour dire, venez chez nous. Vous pouvez sans problème venir rajouter vos modèles 3D sur notre site. C'est ouvert. Moi, je trouve que bon, ça part d'une bonne initiative. Exactement. Moi, voilà, je dis que c'est bien. Pourquoi pas? Continuons. Voilà, après, c'est clair, il faut avoir l'imprimante 3D. Mais à partir de là, si on a quelqu'un dans son entourage qui a ça, bon, il suffit qu'on télécharge, on imprime et puis on remplace la pièce cassée. Donc voilà, tout à fait. Voilà.
Je vois que c'est aussi sous licence Creative Commons.
Oui, exactement. Voilà.
Donc, juste, on peut pas les revendre, mais on peut les modifier.
Voilà, exactement. Alors, j'ai pas téléchargé parce qu'il faut s'enregistrer. J'ai vraiment découvert ça juste avant le podcast. Pour télécharger, il faut s'enregistrer sur le site. Alors, je sais pas sous quel format on télécharge. Je pense qu'on télécharge au format STL, qui est un format que l'on peut ouvrir par exemple avec Blender et le modifier. On modifie le mesh, c'est-à-dire on modifie le mesh, mais on n'a pas le vrai fichier source.
C'est comme un précompilé, quoi.
Ouais, alors c'est pas réellement un pré. Si on voulait faire l'analogie, c'est pas vraiment un vrai compilé, mais avec Blender par exemple, tu pourrais, vu que t'as le mesh, tu pourrais déformer. Mais si t'avais le vrai fichier source, par exemple issu de SolidWorks, t'aurais tous les éléments qui ont permis de construire la pièce, les sphères, les cylindres et ainsi de suite.
C'est comme une image sans les calques.
Ouais, par exemple, voilà, exactement. Et d'ailleurs, ça permet de mettre en lien aussi un tout petit coup de gueule que je voulais faire. Dont je suis aussi coupable, hein, qui est que on trouve souvent, par exemple sur Thingiverse, on trouve énormément de pièces téléchargeables, énormément de projets, mais la plupart du temps il n'y a pas les vrais fichiers sources, c'est-à-dire que on télécharge sans problème les STL. Et là, au niveau des licences, il n'y a pas de problème pour les utiliser. Mais on a très rarement les fichiers sources, les vrais fichiers sources. Alors, moi, je l'explique aussi parce que, y a, par exemple, sous Linux, voire même sous Windows, hein, il n'y a pas de gros logiciels qui permet de faire de la conception 3D. Aujourd'hui, il y a FreeCAD, il y a OpenSCAD, mais c'est quand même, si on les compare à des vrais logiciels professionnels style SolidWorks, ils sont quand même, ils ont 50 ans de retard, quoi. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire, ou si on y arrive, on y arrive très difficilement. Et par exemple, sur le dernier... dans le dernier Nipsource, je vous avais indiqué que je vais commencer un nouveau projet qui s'appelle Mostly Printed CNC, où il y a en fait que j'ai téléchargé donc tous les fichiers STL sur Thingiverse. Et ben l'auteur, j'ai été obligé de lui demander parce qu'il y a un adaptateur à un endroit où on met l'outil qui va me permettre soit d'imprimer, soit de mettre une tête de fraisage, soit une tête laser. Et là, il me faut à tout prix le support, il me faut le plan pour que je puisse créer mon propre adaptateur. Et par défaut, il donne que le STL. Et donc, c'est difficilement exploitable. Et donc, j'ai été obligé de lui demander qu'est-ce qu'il a mis à disposition. Il a mis à disposition un fichier SolidWorks. Et là, je suis quand même bien embêté parce que, à part au travail où je suis capable de l'ouvrir, mais si à la maison, j'ai pas SolidWorks. Donc là, il va falloir que je fasse un petit peu de gymnastique au travail pour pouvoir l'exporter dans un format exploitable chez moi. Voilà. Donc voilà, c'est dommage. Mais malheureusement, il y a quand même une raison. On trouve pas ces fichiers sources.
D'accord. Ouais.
Voilà. Donc le monde n'est pas parfait. On trouve quand même. On peut télécharger ces pièces, mais on peut souvent difficilement difficilement les modifier. Si on est expert Blender, on arrive à faire des choses. Voilà. Mais c'est pas forcément évident avec des logiciels. Si, par exemple, avec FreeCAD, c'est difficile. Voilà pour mon petit coup de gueule.
En effet.
Il y a de l'écho. Hein,
ouais.
Ce qui est assez embêtant par moment.
On a perdu Julien ou...
Peut-être qu'il est en train de regarder le problème.
Bon, j'enchaîne sur les logiciels. On va essayer de partir dessus. Sur les logiciels de la quinzaine, moi je voulais parler d'un site. Alors autant Frédéric, lui, c'est DistroWatch. Moi, c'est alternativo.net. chacun son vice. En fait, je me rends compte qu'en fait, j'y vais très très souvent et je l'utilise notamment pour quand je cherche un logiciel open source, une alternative, je sais pas, je vais prendre un exemple, si on cherche Evernote par exemple, c'est vraiment un espèce de base de données avec un moteur de recherche pour pouvoir filtrer toute une liste de logiciels. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut filtrer en fonction de la licence ou de la manière dont il est installable. C'est-à-dire que on peut filtrer sur si c'est sur du Windows, si c'est du Linux, si c'est accessible sur Android, iOS, si c'est auto-hébergeable. Et vous avez vraiment des listes qui sont très très impressionnantes, même avec des logiciels qui sont un peu exotiques. Donc voilà, je voulais un peu saluer ce site-là parce que c'est vrai que c'est une très bonne source d'information quand vous cherchez du software open source. Il y a d'autres manières d'en trouver, mais c'est vrai que c'est un bon point de départ. Qu'est-ce qu'il y a, excuse-moi? Exactement, oui. Tout à fait. Et ce que je trouve vraiment, vraiment sympa, c'est que voilà, on ne pourrait avoir que des choses sur Windows, mais non, il y a vraiment des choses aussi sous Linux. Et moi, ce que je cherchais surtout, c'était tout ce qui était auto-hébergeable. Et donc tout ce qu'on peut installer sur un serveur. Et bah, y a pas mal de choses qui sont référencées. C'est quand même très souvent maintenu à jour. Même les projets qui ne sont plus maintenus sont indiqués comme quoi ils sont discontinued. Donc c'est vrai que c'est quand même une très bonne source de recherche dans vos... Oui, voilà. Ou d'aller sur le site, voilà, de se rendre compte qu'il n'y a pas eu de commit depuis 10 ans. Voilà. Donc là, c'est vrai que tu peux le voir, et tu peux tout à fait naviguer, voilà, de software en software. T'as le lien vers le site officiel. Enfin voilà, c'est très 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 bien fait, bien un très très bon site.
Et... J'ai dû tomber lors de recherche, moi. En fait, je suis tombé dessus en tapant alternative avec le nom du logiciel. J'ai dû tomber dessus plusieurs fois.
Je rigole parce que en fait c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'allais très souvent dessus, c'est que chaque fois je tape genre alternative tel soft.
Ouais, c'est
effectivement
ça.
Chaque fois c'est le premier site qui remonte et du coup c'est vrai que j'ai tendance maintenant à y aller directement parce que je trouve directement ce dont j'ai besoin de manière assez pertinente. Voilà, je voulais du coup continuer sur un peu tout ce qui peut être logiciel, la découverte de logiciels, alors là, plutôt du côté de Windows. C'est-à-dire que si on a malheureusement au travail une machine sous Windows et qu'on n'a pas forcément le moyen d'installer un Linux et qu'on veut quand même essayer d'avoir des logiciels ou de faire découvrir des logiciels open source, il y a des choses qui existent. Alors il y a la très connue Framaquet qui est toujours maintenue. C'est vrai que ça, on entend plus trop parler. C'est vrai qu'à une époque on en parlait beaucoup, mais j'ai l'impression, je sais Je ne sais pas vraiment si c'était encore maintenu, si ça existait toujours ou pas. Bah, ça, c'est toujours mis à jour. Donc ça vous permet quand même d'avoir une petite pochette avec une quantité assez astronomique de logiciels qui fonctionnent très bien. Et ça permet vraiment aux gens aussi qui sont sous Windows de découvrir des alternatives open source et qui fonctionnent très bien. Donc c'est vraiment à souligner. Et
oui, oui c'est ça, Liberty Key.
Oui, c'est ça.
Moi, j'en ai. Alors, moi, je les ai utilisés. Alors, bon, après, j'ai fait un peu ma compile parce que, bon, moi, je passe d'un système à un autre et puis je vais souvent chez des clients ou sur des postes Windows où il faut que je fasse un certain nombre d'opérations et j'ai ce type de choses-là. Ouais. Avec plein de soft libres où dedans, j'ai fait ma petite compile.
Oui, parce que du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est des logiciels portables. Donc ça se met sur
voilà, tout à fait. C'est le gros intérêt.
Voilà, c'est ça. Et je suis tombé sur une autre alternative aussi qui s'appelle Compilibre. En gros, ils ont pilé, c'est pareil, un nombre assez impressionnant de logiciels. Donc, on télécharge le zip, il fait plus de 3,6 Go. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire largement en mettant ça sur sa clé USB. Je pense qu'on risque pas de manquer d'outils. Les clés de plus de 3 Go, maintenant, c'est plus de 4 Go, c'est la norme. Ouais. Alors, c'est vraiment voilà leur compile à eux, mais ils ont via leur site internet on peut de Compilibre, on peut créer sa propre compile aussi, un peu à la Framaquet. Donc on va cliquer les logiciels qu'on souhaite et du coup ça nous télécharge un zip avec uniquement ce que l'on souhaite. Donc voilà. Voilà pour les biens et je crois que c'est Pierre qui avait aussi quelque chose.
Tout à fait. Moi je vais vous parler d'un logiciel open source sous Windows.
Oui.
C'est pour faire plaisir à Julien. Il est content.
On l'entend plus.
Alors, si vous êtes sous Windows, vous le connaissez sûrement. Il s'appelle ShareX. C'est un logiciel de capture d'écran. Alors, pourquoi ? Alors, il est quand même assez connu. Alors, pourquoi je vous en parle ? C'est plus pour vous détailler l'utilisation que j'en ai et pourquoi, en fait, j'ai décidé de l'utiliser parce qu'il y en a plein qui existent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, donc, il est open source. Il a pas mal de modes de capture d'écran. Alors, il y a les classiques, le plein écran, la capture de la fenêtre courante. On peut capturer des régions, alors que ça soit des cadres ou des objets. J'y reviendrai. On peut faire une sélection par polygone. On dessine un polygone et hop, tout ce qui est à l'intérieur du polygone est capturé à main levée. Donc là, c'est un peu le lasso qu'on a dans les logiciels style GIMP. On peut faire de la capture par défilement, c'est-à-dire que vous mettez sur une fenêtre et automatiquement, il va faire défiler le contenu de la fenêtre et il fait une capture d'écran en même temps. Ça marche. De temps en temps, j'ai quelques couacs, mais globalement, ça marche bien. Il y a aussi une capture de page web. Alors là, on saisit carrément, il y a une fenêtre qui s'ouvre, on saisit l'URL et il fait la capture d'écran de l'URL. Et
De ta page entière, du coup.
Ouais.
C'est-à-dire que si une page que tu dois scroller parce que ton écran est trop petit, te prend bien la page...
Alors, j'ai vu, sincèrement, j'ai pas utilisé, j'ai vu que c'était possible et que, en fait, quand tu passes là-dessus, il t'ouvre une boîte de dialogue où tu saisis la boîte, tu saisis l'URL que tu veux capturer et je pense qu'après, il fait un peu comme tu ferais avec la capture par défilement. Parce que moi, la capture par défilement, en général, je l'utilise pour capturer une page web. Souvent, voilà. Donc, je pense que c'est une manière, entre guillemets, détournée de faire exactement la même chose. Et après, il permet aussi de faire des enregistrements via FFmpeg qu'on télécharge. L'outil, à ce moment-là, demande si on veut le télécharger. Et là, on fait de la capture vidéo. Le réglage est pas mal parce que les fichiers en sortie sont très compacts. Ça, j'ai fait des vidéos pour montrer à mes clients des logiciels. Par contre, j'ai pas essayé si on pouvait enregistrer le son pour faire des screencasts, mais c'est pas mal. Et on peut aussi, en enregistrement vidéo entre guillemets, on peut générer du GIF animé. Voilà, ça, donc, je sais que ça, ça vous plaît.
Non, mais c'est le IMAX de la capture d'écran.
Exactement, exactement.
Non, mais il fait pas le café.
Presque, presque, parce qu'après, il y a les outils. Il y a les outils. Non, non, alors par contre, moi, là où vraiment, ce qui m'a vraiment décidé et qui est une spécificité que je pense qui est propre à Windows, il y a peut-être Mac, mais Linux, je suis quasiment
certain. Elle plante.
Non, il ne plante pas. Une des spécificités, et je vais aller jusqu'au bout, c'est la capture par objet. Et en fait, là où on, quand vous faites une capture par région, en fait, là, vous sélectionnez, vous tracez un rectangle autour de la zone. Ça, c'est ce que on a, par exemple, avec, par exemple, Shutter sous Linux. Là, il est capable d'identifier les composants qui sont à l'écran. C'est-à-dire que si vous avez, une fenêtre avec dedans des cadres, des boutons, des tableaux, tous les composants, tous les widgets qui ont été utilisés, il est capable de les détecter. Et automatiquement, il les sélectionne. Si on met la souris dessus, il va sélectionner que le bouton. Ça, c'est automatique. Et alors ça, moi, j'utilise pour faire des documentations. C'est-à-dire que je vais faire, par exemple, je vais me mettre sur la barre de titre, je vais faire la capture de toute la fenêtre. Alors bien sûr, je me mets en sauvegarde automatique. C'est-à-dire que j'ai un raccourci clavier qui me déclenche la capture par région. Et je l'ai mis en sauvegarde automatique, en hommage automatique. C'est-à-dire que quand j'ai cliqué sur l'élément que je veux enregistrer, automatiquement, il me le stocke dans un répertoire avec un nom, avec un incrément automatique d'un numéro. Voilà, ou d'un numéro ou d'une date. Et là, donc, pour faire mes documentations, je fais d'abord la capture générale de ma fenêtre. Après, le panel. Si j'ai un panel qui contient des boutons, je vais prendre le panel. Et après, chaque bouton. Et là, ça va très, très vite. En quelques minutes, on a fait plusieurs écrans avec tous les boutons, tous les détails. Et après, dans les documentations, je peux détailler la fonctionnalité, à quoi correspond chaque bouton. Donc ça, c'est un... Alors, il y en a d'autres sous Windows qui permettent de faire ça. Mais celui-là, jusqu'à maintenant, les outils que j'avais étaient pas open source. Mais celui-là le permet. Et donc, vous disiez, oui, il fait pas le café, mais pas loin. Il y a aussi des outils intégrés. Alors, il y a un éditeur d'images. Ça, c'est aussi un classique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la capture d'écran, vous pouvez lui dire... En sortie, soit tu enregistres directement, soit tu me demandes le nom du fichier, soit tu mets dans le presse-papier, ou on peut lui dire ouvre un éditeur d'image, comme ça je vais pouvoir rajouter des annotations, des flèches, des cadres et ainsi de suite. Très pratique pour même chose pour faire des documentations. On a aussi d'autres outils qui sont liés. Il y a un sélecteur de couleurs. Des outils un peu moins... Il y a des outils un peu moins utiles, mais bon, pourquoi pas un générateur de QR code. On saisit ce qu'on veut mettre dans le QR code et il génère le QR code. Je crois que... Qu'est-ce que j'avais vu? Je crois qu'il y a un petit client FTP. Même chose. Pourquoi? Mais ils l'ont rajouté. Voilà un certain nombre d'outils. Et voilà, donc ça, c'est un peu mon coup de cœur. Je l'utilise énormément et... Pour moi, il est vraiment très très pratique et je suis très productif avec lui.
Moi, je ne connaissais pas du tout. Ce que j'ai rajouté dans les notes de l'émission, c'était GreenShot, qui est aussi en capture d'écran open source,
ouais.
Qui est très très bien, alors qui est beaucoup plus au final simpliste que le tien. Mmh. Je pense que, alors, pour mes utilisateurs, je pense que je vais leur laisser GreenShot, hein, parce qu'ils ont déjà du mal, clic droit, clic gauche, on va laisser ça. Par contre, pour moi, je risque de basculer sur Xerix parce qu'effectivement, c'est quand même pas mal de petits outils sympas. Voilà.
Disons que Xerix a l'air d'être pour partager de manière générique. Et, Est-ce que tu sais publier sur les réseaux sociaux?
Alors, il y a des fonctions d'export. Alors, moi, je suis pas trop aux réseaux sociaux. Mais je crois que tu peux te connecter en sortie. C'est-à-dire qu'en fait, tu définis dans les paramètres, tu définis ta sortie, c'est-à-dire que tu peux dire si tu veux stocker sur Dropbox ou des choses comme ça. Et il me semble, alors là, c'est à contrôler, mais il me semble que j'ai vu un menu où tu as la possibilité de publier, ouais, style. Je sais pas si c'est Facebook,
ouais, si
Twitter.
Image ou... Uploader, tu as Twitter, Picasa.
Voilà. Peut-être un peu même du Flickr ou des choses comme ça.
Flickr aussi.
Mmh. Voilà. Et GreenShot, je l'ai utilisé à une époque quand je travaillais sur Windows.
Ouais.
Enfin, j'ai travaillé sur des machines Windows et GreenShot me servait surtout quand je devais faire de la documentation. Parce que j'ai travaillé avec des grands débutants en informatique, donc c'était pratique d'avoir GreenShot pour faire des captures d'écran, pour l'expliquer ici et ça. J'ai connu ça.
Voilà. Mais pour en revenir à Linux, la sélection par objet, pour moi, j'ai pas l'impression, j'avais recherché, j'ai pas l'impression que ça existe sous Linux. Et moi, je me l'explique par le fait que on a différents, alors je sais pas comment on l'appelle, on a GTK, on a Qt, on a différents toolkits et que c'est la différence qu'il y a avec Windows. Windows, on a les widgets, ils sont tous les mêmes, ils sont gérés par Windows. Donc l'outil est capable d'aller analyser la fenêtre et de dire il y a un bouton et je sais s'il y a un bouton, je connais sa taille et je suis capable de le sélectionner. Et alors que sous Linux, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a différents toolkits. Et ça, je l'ai pas trouvé. Alors bon, je suis loin d'être un spécialiste, mais j'ai pas l'impression que ça existe ce type de fonctionnalité.
Ça te parle, Julien, ou parce
que moi, non, moi, ça me parle pas.
Voilà.
J'en ai pas rencontré non plus.
Voilà. Après, quand tu utilises souvent ce type d'outil, quand t'as fait la connaissance du mode objet, je peux t'assurer que ça change ta vie.
Tout ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les fenêtres, quoi.
Sélectionner les fenêtres ou sélectionner une zone que tu définis toi-même.
Oui, mais c'est tout. Parce que ça, c'est peut-être que ça va s'améliorer avec Wayland, mais en tout cas, pour le moment, le protocole X11 ne permet pas d'aller de manière plus profonde, quoi.
D'accord.
Ce bon vieil X11.
Ouais, il mourra jamais.
Il fait son âge, il faut le dire, les choses comme elles sont. Hein.
Oui. Il fait son âge et on attend Mir.
Oui.
Non, je ne marcherai pas dans le troll. Non, je suis pour la société protectrice des trolls.
Ceci dit, tu demandes quand Mir va arriver, mais il est déjà là dans les tablettes, etc. Non.
Oui, mais je parle sur le plus grand public. Oui, mais ça fait au moins 3 ans qu'ils le repoussent. Peut-être pour la version 16.10 ou 17.04.
Non, ils l'ont déjà repoussé. C'est déjà plus la 16.10 maintenant.
Bon, c'est 17.04, oui. Non, mais je sens que ça va être un peu comme CNU-URD.
Non, mais ils vont le sortir, qu'ils vont passer à Wayland, c'est tout.
Voilà. Non, mais là, non. J'ai promis de ne pas marcher dedans.
Ouais. Est-ce que tu as déjà testé CNU-URD?
Ah, URD. Bon, mais vu qu'on ne peut pas avoir de carte son, déjà, mais URD est vraiment très, très, très peu avancé sur cet implant, quoi.
Attention.
Il faut bien tomber sur une distro qui propose URD. Déjà.
Debian.
Ouais, mais la dernière Debian, ça doit être peut-être de 2015 avec Heard. Donc, non, mais c'est vrai que Heard, c'est vraiment un très beau projet sur le papier, mais sur le plan pratique.
Attention, il est toujours développé. Il y a quand même encore une réunion annuelle.
Non, mais la dernière, quand même, ils ont sorti 2 versions de Heard. La 0.7 et la 0.8.
Hein. Je pense qu'ils supportent l'USB maintenant.
C'est possible, ils supportent l'USB déjà. Non, mais c'est vrai que CNU-URD, comme avait dit Linus Torvalds dans sa biographie, c'est bien beau les micro-noyaux sur le papier, mais c'est indémerdable pour le débogage.
Alors, quelqu'un veut encore me troller sur Exerbo, je vois.
Ouais, c'est moi. C'est moi. Je vais vous parler d'un outil multiplateforme. C'est une suite de logiciels d'analyse de signal qui s'appelle Sigrok et qui a même ses paquets pour Exerbo. Donc là, tu devrais être content, Julien. Bien sûr, c'est open source en GPL V3. Et ça permet de raccorder de nombreux outils, c'est-à-dire ça peut être des voltmètres, des oscilloscopes, des boîtiers de capture de signaux. Alors moi j'ai ça parce que j'utilise ce logiciel parce que j'ai acheté sur AliExpress un petit boîtier que je branche en USB qui me permet d'analyser des signaux TTL, c'est-à-dire 0,5 volts, ça me permet de m'aider quand j'ai des soucis avec mes montages Arduino. Et donc en fait, l'analyse de signal, ben, ça permet, par exemple, sur un bus I2C ou SPI, ça me permet d'enregistrer jusqu'à 1 million de samples à la seconde. Et après, ça me sort un fichier de données et ce logiciel affiche toutes les données qu'il a enregistrées. Et le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir, sur chaque signal qu'on a enregistré, on va pouvoir lui brancher ce qu'ils appellent un décodeur, c'est-à-dire que les signaux 0 et 1 qu'on a enregistrés, hein, puisque quand on fait de l'analyse logique, c'est du binaire, hein, c'est 0 1 en niveau des logiques, on va pouvoir dire, bah, par exemple, ce que j'ai enregistré, c'est du protocole I2C, par exemple, et hop, tout de suite, il décode et il dit le contenu des trames. Un peu comme fait Wireshark pour de l'Ethernet.
Ouais.
Voilà. Et alors donc dedans par exemple, ce qu'ils appellent des décodeurs. Il y a 65 décodeurs, je les ai comptés cet après-midi. Et il y a entre autres de l'I2C, du SPI, de UART. Donc c'est de la liaison série. Ça vous affiche, une fois que vous lui avez mis « je suis à 9600 bauds », et ben hop, il vous offre, vous branchez sur le RX et le TX, et puis il vous dit ben voilà le contenu de tout ce qui passe. Il vous le met clairement. Du Modbus RTU, par exemple, il y a du DCF77. Alors, pour nos amis canadiens qui nous écoutent, le DCF77, c'est un émetteur à 77 kHz qui rayonne dans toute l'Europe et qui permet de synchroniser les horloges. Voilà. C'est toutes les minutes, on a des top horaires et je crois que c'est toutes les minutes, on est sûr que le top entre 59 secondes et 0, on est calé pile poil au niveau de l'horloge atomique qui est dans l'émetteur DCF77.
C'est pour l'horloge parlante.
Pour les montres qui se mettent à jour toutes seules.
Voilà, il y a un certain nombre de kits qui existent et puis il y a pas mal je crois qu'il y a des stations météo, tu peux avoir aussi des radios réveil qui sont branchées en DCF77 et qui se mettent à l'heure tout seul.
Oh, gentil, c'est bien pour le changement horaire, ça.
Voilà. Voilà. Bon, ça existe depuis très très longtemps, hein. Voilà. Et puis pour terminer, il y a du protocole MIDI aussi, entre autres. J'ai donné les plus courants. Hein. Il fait de l'USB, mais ça sera pour l'USB, c'est exploitable que pour les petites vitesses, hein, puisque l'USB il y a pas mal de vitesses. Si ça dialogue doucement, on peut arriver à décoder ce qui passe à la volée.
Est-ce que tu crois qu'on peut par exemple l'utiliser pour faire du radio, du software defined radio?
Il faudrait regarder en fonction du protocole utilisé. Là, je te laisse aller sur le site et de regarder dans la section décodeur. Et en fonction du protocole qui est utilisé, avec un peu de chance, oui. Si c'est pas trop.
Par exemple, moi, je sais écouter du FM. Je sais pas si ça sait décoder le FM, par exemple.
Ah non, je pense.
Le son, par exemple.
Non. Il faut vraiment que ça soit là, on parle bien de signaux tout ou rien, hein, du moins entre guillemets.
Ah d'accord, oui.
C'est pas de l'analogique. Hein.
C'est du digital.
Voilà, c'est du digital. Voilà, je cherchais. C'est vraiment de l'analyse de signaux. Donc voilà, alors bien sûr, au niveau d'Ouzity, il y a un outil qui s'appelle Pulse View, qui est une interface graphique, donc qui est très facile d'utilisation, où on a nos différents, par exemple, sur mon petit boîtier, j'ai 8 entrées. Donc on va affecter les entrées. À chaque entrée, on va lui affecter un décodeur, donc un outil qui va permettre d'analyser le signal. On a aussi le Sigrog CLI, qui est une interface en ligne de commande. Alors ça, c'est pour toi, Julien, puisque après, les résultats, au lieu de les avoir en graphique, ben tu les as à l'écran avec des belles petites animations, avec des beaux dessins en ASCII art qui te permettent de voir les créneaux 0, 1. Voilà, je te laisse. Si tu verras, il y a un lien où il y a une belle capture d'écran où on voit le type de sortie. Ça, c'est pour toi.
C'est cadeau,
c'est pour toi.
Tu sais, écoute, pour l'épisode prochain, je te montrerai comment faire des graphiques en ligne de commande.
Ah voilà, ouais, bah, j'attends ça.
Imprimer directement dans le terminal.
Ah super. J'ai déjà hâte d'y être.
Je confirme sinon que Sigrok, PulseView, etc. sont bien packagés dans Xerbo dans les repositories officielles.
Eh ben voilà, tu vois, ils t'ont pas oublié.
Ils m'ont pas oublié, non, en effet.
Voilà pour mon petit Sigrok.
Eh ben on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Le principe, Frédéric, c'est que on vient avec des coups de cœur, des coups de gueule, etc. Je vois qu'aujourd'hui c'est surtout Cyril.
Ben moi j'ai déjà fait le mien.
Donc je ne sais pas si d'abord tu veux partager un coup de cœur ou un coup de gueule, Frédéric.
Ben mon coup de cœur, c'est un site musical parce que moi je suis un fou de musique. D'ailleurs c'est mon blog qui le prouve. C'est le site Bandcamp. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Non.
Pas du tout.
Ben c'est un peu le principe de notre édition, mais pour la musique.
D'accord.
Mais c'est un site où tous les artistes et les groupes se mettent, peuvent proposer gratuitement ou de manière payante leur musique. Et c'est-à-dire que ils proposent en écoute en flux. C'est comme ça que j'ai découvert la moitié de ma musicothèque qui fait à peu près 700 albums. C'est vraiment le même principe que l'auto-édition.
D'accord, tu mets.
Et c'est-à-dire que quand tu achètes un album sur Bandcamp, si tu verses 10 euros à l'album pour un album, l'artiste en récolte 8.
Ah, ça, c'est.
Mais ça inverse le.
Ouais, ça inverse le rapport de force.
Maison de disque, quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les frais de Bandcamp, les frais d'hébergement et les frais de paiement PayPal, c'est tout. Le reste, les 80% qui restent vont directement à l'artiste. Donc, bandcamp.com. Voilà.
Non, moi, je connaissais de noms, mais il y a des artistes. Alors, c'est plutôt de l'underground, où il y a même des artistes très connus.
Il y a de
qui...
tout.
De tout, d'accord.
Mais t'as Amanda Palmer qui est sur Bandcamp, par exemple.
Ça commence bien, je connais pas.
Amanda Palmer, c'est une artiste qui avait partie des Dresden Dolls, qui était un groupe de cabaret punk.
D'accord.
Il y a aussi, Cœur de Pirate pour les personnes qui aiment. Il y a, qui c'est qu'il y a d'autres aussi. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'artistes peu connus, mais tu as tous les genres possibles imaginables, metal, folk, électronique, fouille, tu le trouveras. C'est bandcamp.com.
Ah, c'est Bandcamp, hein.
Voilà.
Ouais.
Ok. Oh, je suis dessus. Ça a l'air à découvrir. Oui, oui. J'irai faire un petit tour.
Mais là, j'ai reçu un album d'un groupe qui s'appelle Les Corbeaux, un groupe français de post-rock. J'avais commandé leur album, j'avais précommandé, puis je l'ai reçu aujourd'hui. Mais ils sont suivis sur Bandcamp. Mais tu as tous les modes, tu as tous les domaines, le metal, le hard rock, le rock classique, la folk, la soul.
Il n'y a pas Kenji Girac. Hein.
Non, n'y est pas. Non, tu vois, déjà, c'est sinon. Non, là, voilà. Et un deuxième coup de cœur, c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est une chaîne médicale qui parle de médecine qui s'appelle Primum Non Nocere. C'est un toubib qui parle de sujets médicaux. Si vous ne connaissez pas, c'est une très bonne chaîne. Voilà, c'est mes deux coups de cœur.
C'est de la vulgarisation médicale ou
Vulgarisation médicale, il parle aussi bien de... Il avait parlé de... Pour la Saint-Valentin, il avait fait un épisode « Non, chérie, pas ce soir, j'ai la migraine. »
D'accord. Ça va rester soft.
Il parle de tous les sujets médicaux, il a parlé des courbatures, il a parlé de tout ce qu'il... Il a fait récemment un épisode sur la différence entre VIH et SIDA, pour expliquer la différence entre les deux. Mm-hmm. C'était une très bonne petite chaîne, si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est mes deux coups de cœur.
Bah, si tu peux mettre le lien dans les notes de l'émission, comme ça les auditeurs pourront aller voir.
Mais si tu veux noter, c'est primum, donc en latin, non, et nocere, c'est N-O-C-E-R-E. C-E-R-E. Voilà.
Alors, Cyril, lui, il va pas imprimer des poignées de porte ou des cale-portes ou, trucs de boulanger. Lui, il va imprimer directement un appartement.
Non. Un immeuble, monsieur. Un immeuble.
Ouais. Ah, quand même. Modeste.
Alors, mi figue mi raisin, mais je vais y revenir après, plus tard. En fait, il y a eu un petit article qui a été repli sur plusieurs sites où à Dubaï, ils ont fait une proof of concept où ils ont imprimé un bâtiment grâce à l'impression 3D. Donc, ça a coûté à peu près 125 000 euros. Donc, c'est à peu près 50% d'économie par rapport à des frais de chantier classiques, on va dire. Mais ils ont surtout mis que 7 jours pour le monter. Donc, ils n'ont pas pris une petite imprimante. Hein. L'imprimante 3D faisait plus de 6 mètres de haut.
Ça vaut mieux quand même.
Oui, je pense. Hein. donc voilà, c'était vraiment ce que j'ai trouvé excellent. Voilà, c'est l'espèce de prouesse technique qui permet en fait, en plus de gagner de l'argent et d'entier, voilà, ça reste de l'impression 3D. Donc assez impressionnant. Mm-hmm. Ils ont fait ça grâce à un espèce qui précise. Mm-hmm. Et ça, plutôt pas mal. C'était que, ouais, je sais pas si je l'ai précisé, mais 7 ouvriers. Pas beaucoup au final pour tout. Mmh. Donc ça c'est le côté, tu te dis waouh, le côté bof, c'est que tous les articles dans lesquels j'ai vu, tout est au conditionnel, c'est-à-dire qu'on te dit, on te parle d'un immeuble, après on te parle d'un espace de travail, on sait pas te dire vraiment avec quoi c'est fait, c'est la limite de l'article,
click on buzz.
Voilà, je pense que à Dubaï ils sont capables de faire des choses.
Mmh. Cyril, il veut le fichier source en fait.
Voilà, exactement.
Je veux l'ouvrir dans Blender et je veux voir comment on fait.
Non, l'ouvrir dans Blender tu pourras, mais tu pourras pas. Ça sera difficile de le modifier.
Ouais, ça, voilà. J'imagine.
Non, en fait, moi j'avais vu il y a de ça quelques temps. C'était en Chine où ils avaient construit. Le robot fonctionnait pour faire. C'était plus pour faire, je crois, c'était des parois. Alors, c'était vraiment un très gros robot.
Pour des maisons, oui.
Ouais, pour des maisons. Et au lieu d'avoir un fil comme toi, mon imprimante 3D, c'est 1,75 mm, entre guillemets, le fil, ce qui sortait, ça faisait au moins 30 ou 40 cm de diamètre. Voilà. Et il faisait des sortes de gros boudins qui l'entassaient. Apparemment, c'était assez rapide. Ça leur permettait de faire des structures. Après, mais c'était plus des. Moi, si mes souvenirs sont bons, c'était plus des panneaux. Ils montaient très rapidement des panneaux. Et après, ils prenaient ces panneaux. Ils n'avaient plus qu'à les assembler. J'ai pas souvenir qu'ils faisaient la totalité de la maison d'un coup. La structure complète de la maison. Et puis, là où j'ai un petit doute, alors je ne sais pas comment ils font, ils vont faire les murs, ils font le sol, il n'y a pas de problème, mais faire le plafond, sauf s'ils mettent quelque chose au milieu pour supporter, parce que de base, tu ne sais pas imprimer en 3D dans le vide.
Non.
Voilà. Donc, alors peut-être qu'ils mettent des supports, hein, peut-être qu'ils font des astuces, mais voilà. C'était peut-être, mais je suis comme toi, je demande à voir une vidéo ou autre, parce que là, on a que des images sur l'article que tu as mis en lien, ouais. Où on a bien l'impression que c'est sorti d'un logiciel de génération de 3D, hein, d'un style un Blender évolué ou un machin comme ça.
Exactement ça. Sur tous les articles que j'ai pu voir, c'est les mêmes photos reprises.
Voilà.
Mais bon, si c'est vrai, waouh.
Oui, non, mais
ouais,
bon.
Mais quand même, restons prudents. Hein.
Voilà.
Voilà. Non, mais ça va venir. Ça,
ouais, mais dans combien de temps ?
Voilà, non, mais c'est en route. Alors, c'est en route et
vrai,
ça va arriver.
C'est que le Dubaï veut être absolument pionnier sur ce domaine-là, sur la construction grâce à l'impression 3D.
Mmh.
Voilà, je suppose pour gagner en main-d'œuvre, pour gagner en efficacité en temps de montage. Mais après, voilà. Est-ce qu'ils en sont à ce point-là à monter des buildings ? Je ne suis pas sûr encore pour le moment. Mais... L'avenir nous le dira.
D'accord.
Sinon, mon deuxième coup de cœur, bon, ça par contre, ça va arriver.
C'est pour casser la maison.
c'est une petite dédicace pour Deka. Il nous avait parlé de Kung Fury, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est une vidéo sur YouTube qui est complètement déjanté. C'est une espèce de parodie où un flic se fait mordre par un cobra et il se lance dans une espèce de quête absolument démentielle ou qui va régler à coups de patin dans la tête. Et ben ils vont faire une suite. Je vous ai mis le petit lien avec le teaser de la suite de cette petite vidéo-là. Et voir aussi la, le premier opus qui était vraiment très, vous ne l'avez pas encore vu. Et je vais finir avec mon petit coup de gueule sur Windows. Windows 10 plus précisément. Je sais pas si vous avez suivi les petites news récentes sur la nouvelle mise à jour de, sur Windows 7.
Ah oui, c'est tapis sur la croix rouge, ça, dans l'installation.
Exactement. Ouais. Pour faire un petit historique sur Windows, de pousser le KB pour avoir le petit encart de, qui propose la mise à jour sur les postes clients. Soit tu désinstallais la mise à jour et puis tu n'étais plus embêté. Sauf que après, ils nous reviennent, vu que la version Windows 10 va devenir payante à partir de cet été, ils ont repoussé une petite KB pour nous reproposer Windows 10 parce que c'est vraiment très intéressant Windows 10. Mmh. Il faut absolument que vous passiez sur Windows 10, vous comprenez bien Monsieur Gentil. Mmh. Sauf que la petite subtilité, c'est que quand on lance le petit encart et qu'on clique sur la croix pour fermer la fenêtre,
bah, ça lance Microsoft,
voilà, ça lance l'installation. Et franchement, il faut arrêter de prendre les...
C'est vicieux.
C'est plus que vicieux là, c'est vraiment prendre les gens pour des couillons quoi. Enfin, je veux dire, après si la personne ferme la fenêtre, elle veut peut-être pas tout de suite, donc laissez-lui temps de se lancer. Enfin, je veux dire voilà. C'est... Je vais pas jusqu'à déconseiller Windows 10, mais je trouve que le procédé vraiment de pas de vente forcée, mais d'installation forcée, je trouve ça vraiment plus que moyen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
c'est limite limite. Hein.
Oui, moi aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont désactivé. Hein. Ils ont refait après une mise à jour qui supprimait cette fonctionnalité. Je crois que c'est plus actif.
Ouais, bah attends. Voilà. Donc sachez qu'il y a plein de tutos hein, sur Internet pour pouvoir désinstaller toutes les propositions, enfin le petit encart de Windows. Mm-hmm. Et puis après, si on est quand même assez grand pour savoir si on veut l'installer ou pas. Donc, merci.
Voilà, voilà.
Pas nous forcer la main. Ça serait sympa. Voilà.
Non, mais ils veulent arriver à leurs milliards ou leurs 100 millions d'installations en un an. Donc...
Mais oui, c'est ça le souci, c'est qu'on sent bien que côté chiffres, ils veulent faire leurs chiffres.
Voilà, la tendance, c'est l'impression, et que c'est moins ça a moins de succès qu'ils veulent bien le dire. C'est un peu comme les ventes d'Apple Watch, dont on ne connaît pas le nombre exact.
Oui. Ouais, alors j'irai pas jusque à comparer l'Apple Watch, parce que je pense que l'Apple Watch est vraiment un
non, mais c'est le principe, je veux dire. C'est pour, on veut pas parler des chiffres, voilà, là, là, là. C'est le principe derrière.
Mon vitrier préféré.
Eh ben, là-dessus, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Merci Pierre, Cyril, et merci à notre invité, Frédéric. Comment prononce-t-on ton nom de famille
hein? Comme la ville de l'Hérault.
Béziers.
D'accord,
voilà. Béziers. Moi, tout fait, donc là, tu sais, maintenant, j'ai l'habitude. Hein. On m'a fait toutes les versions possibles et imaginables.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup à toi d'avoir participé à cet épisode.
Merci à toi.
Et merci à tous nos auditeurs de leur fidélité et à dans 2 semaines.
Au revoir.
Nip Source.
Vous venez d'écouter Nip Source, un podcast de la galaxie Nipcast. Retrouvez-nous sur nipcast.com. Les génériques de cette émission sont de Captain Posix et sont publiés sous licence Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0.
Source.